Voici le cinquième épisode de ma série consacrée à l'année 1963. Au menu, une grève des mineurs qui fera date, Jeanne Moreau qui s'empare du micro, une tour Eiffel dangereuse et un Jacques Brel sur tous les fronts.
1963, Ondelat raconte sur Europe 1.
Début mars 1963, les mineurs du nord de la France, de Lorraine et du centre réclament une augmentation de leur salaire, car ils restent inférieurs au salaire moyen national.
Les trois syndicats des mineurs repoussent les propositions gouvernementales et lancent un ordre de grève illimité. Réponse du gouvernement, réquisition générale.
Les manifestants n'apprécient pas du tout la réaction du Premier ministre et ils tiennent à le faire savoir. Les rangs grossissent, le mouvement s'intensifie. Et le 8 mars 1963, le Premier ministre Georges Pompidou doit s'expliquer.
Nous nous trouvions dans des circonstances exceptionnelles, au lendemain d'un hiver particulièrement long et rigoureux, avec 2 mois de gel ininterrompu, des stocks de charbon inexistants, la grève illimitée. Cela voulait dire, et cela veut dire, un arrêt progressif de l'activité économique du pays. Cela veut dire des restrictions de gaz et d'électricité, des fermetures d'usines, des difficultés de chauffage pour les foyers domestiques, pour les bureaux, pour les écoles, pour les hôpitaux. Comment voulez-vous que le gouvernement accepte sans réagir aucunement ces perspectives?
Mais les Français, eux, sont plutôt solidaires avec les mineurs. Souvent bouleversés par le témoignage de leur famille, comme cette famille d'Arras, par exemple.
Vous avez combien d'enfants, madame?
5.
Quelle âge ont-ils?
13, 12, 10, 9 et 4 ans.
Alors comment vivez-vous depuis le début de la grève?
Ben, on se restreint un petit peu.
Et au point de vue économique?
Aujourd'hui, il me reste encore 10 000 francs, mais c'est pas des sous de cette quinzaine. C'est des sous que j'ai pu mettre de côté avant.
Depuis combien de temps?
Ben, depuis 3 mois.
Donc ce sont vos derniers 10 000 francs que vous aviez économisés en 3 mois?
On voulait mettre un petit peu de sous d'avance pour aller en vacances, et bien on s'en servira de cela.
Où pensez-vous aller?
À la mer. Sur le côté de Berck, dans le Pas-de-Calais, pas trop loin de la maison, pour éviter les frais de voyage. Nous voulons aller à la mer parce que la petite est déficiente.
Donc là, vous ne pourrez pas partir?
Non.
Et pour vos enfants, vous ne leur achetez rien en ce moment?
Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'ils vont avec ce qu'ils ont sur le dos. On raccommode du mieux qu'on peut.
Et malgré tous ces sacrifices, hors de question d'arrêter le mouvement pour autant.
Sincèrement, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que votre mari poursuive la grève?
Ben oui, on a commencé, il faut continuer jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute, c'était pas la peine d'arrêter 3 semaines et puis ne pas avoir rien.
Malgré les jours noirs qui s'annoncent.
Ben oui, on a un petit peu d'espoir quand même que ça ira mieux.
Et si par exemple la grève devait durer encore 15 jours?
Mais bon, on tiendra le coup 15 jours.
Vous avez un peu peur pour vos enfants?
Oui, c'est plutôt pour eux. Parce que malgré tout, on est obligé de leur priver un petit peu de fruits, un petit peu de viande, de ce qu'ils aiment bien. Alors malgré tout, on a mal au cœur pour eux. J'ai pas la lame facile, mais j'ai souvent le cœur gros.
Sur 197 000 mineurs, 178 000 choisissent de débrayer. Et chaque jour, ils sont des dizaines de milliers à manifester à Forbach, à Lens ou à Douai. Le 20 mars, à Valenciennes dans le Nord, on voit aussi des femmes battre le pavé.
Ils étaient 10 à 15 000 des mineurs, mais aussi des métallos et encore des femmes, beaucoup de femmes. C'est la première fois qu'elles participaient en aussi grand nombre à une manifestation.
Après 20 jours de grève, les leaders syndicaux, tous unis pour faire face au gouvernement, bombent le torse. Ils estiment avoir gagné une première bataille en répondant non à Pompidou.
Déjà, une première victoire a été remportée. C'est celle d'avoir mis l'autorité du gouvernement en brèche en répondant non à la réquisition. Quant à vous, mesdames, c'est avec beaucoup de respect, d'amitié et d'admiration que je vous salue.
Cette manifestation est la manifestation de la volonté inébranlable des mineurs de ne retourner à la mine que lorsqu'ils auront satisfaction.
Les mineurs grévistes reçoivent de plus en plus de soutien. Les cheminots sont avec eux, tout comme les sidérurgistes et les agents de la fonction publique, et même les étudiants. Le gouvernement, lui, est de plus en plus isolé.
Syndiqué, monsieur ?
Oui.
Toujours décidé à faire la grève ?
Oui.
Longtemps ?
Quand le gouvernement est fait. Hein.
Et vous, madame, d'accord avec votre mari ?
Ah oui, plus que jamais, hein. Les 75 000 francs par mois, c'est de la blague. Et celui qui les a, les 90 000 francs, ça ne peut être qu'à l'avant de maîtrise.
Oui, vous n'inciteriez pas votre mari à reprendre le travail maintenant ?
Ah non ? Non, je marche pas, parce que moi, je paye les marchandises aussi cher que celui qui touche les 80 francs par mois.
Vous êtes prêt à durer ?
Ah oui.
Longtemps ?
Oui.
Toujours décidé à durer ?
Ah, toujours, oui. Jusqu'à la victoire complète. Si on recule, c'est tout, on est mort. Pour toute la vie.
On dit que certains mineurs sont lassés et veulent reprendre le travail.
Oh, c'est pas vrai, ça. Il y en a jamais un qui se présente à la poste. T'as pas un qui vient avec sa musette, rien du tout.
Et la musette, c'est...
Non, la musette, c'est le travail.
Vous syndiquez ?
Non, monsieur.
Vous participez au piquet de grève ?
Jusqu'à présent, j'ai pas participé.
Toujours décidé à tenir ?
Ah oui, il faut tenir, hein. C'est pas la peine de tenir si longtemps pour abandonner maintenant.
Et vous êtes de l'avis de votre mari ?
Ah oui. Alors ça serait un mois de perdu. Ils auraient fait grève pourquoi ? Pour rien, en somme. Le mois qui se serait écoulé, tout ce temps perdu, tout cet argent perdu, tous nos vacances qui sont maintenant en l'air, ça serait pour rien alors, s'ils recommenceraient maintenant.
À présent, un mois de grève, la direction des bassins miniers et le gouvernement consentent à augmenter les salaires des mineurs. Une aide de 100 000 francs est également accordée aux familles des mineurs. Le travail reprend progressivement. Cette grève des mineurs de mars 63 deviendra une date importante dans l'histoire du syndicalisme en France. Ce conflit durant lequel les syndicats ont affiché leur unité symbolisera la défense du droit de grève.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était tant jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait la vie et le vent me disait: elle est bien trop jolie, et toi je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais elle est partie. C'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais.
C'était Alain Barrière avec « Elle était si jolie » en 1963, chanson qu'il a écrite et composée pour l'Eurovision.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1963, Jeanne Moreau fête ses 15 ans de carrière. Elle a 35 ans et elle enchaîne les films. Après Le procès d'Orson Welles et Jules et Jim de François Truffaut l'année dernière, la voilà en 63 à l'affiche de Baie des Anges, le nouveau film de Jacques Demy, dans lequel elle incarne une joueuse de casino, vénéneuse et manipulatrice.
La semaine dernière, en gain, j'ai gagné pas mal d'argent à la roulette.
5 000 francs.
Avec ça, tu n'iras pas loin.
Voleurs ! Vous n'êtes que des voleurs !
Taisez-vous !
Je ne serai qui je veux ! Ne me touchez pas !
Je ne veux pas d'un joueur chez moi.
Tu me chasses, c'est bien ça.
Maintenant.
Ne me le dis pas deux fois.
Et elle ne va plus.
Chaque fois, je me laisse prendre. Mais c'est fini, je jouerai plus. Heureusement, j'ai vu ma valise, on n'aurait jamais su mettre tout ça. Tu connais Monte Carlo ?
Non.
Oh, il faut que tu viennes avec moi. Ce que j'aime justement dans le jeu, cette existence idiote, faite de luxe et de pauvreté. Si je gagnais 100 000 francs, je te jure, je quitterais la table. Après, je rentrerai à Paris.
C'est bien ce que je dis. Pour un jeton, t'hésiterais pas à faire le trottoir.
Oh, tais-toi. Puisque cette passion m'aide à vivre, pourquoi m'en priverais-je? Au nom de qui? De quoi? De quelle morale? Je suis libre.
Et à chaque nouveau rôle, Jeanne Moreau apparaît physiquement transformée.
À chaque film, vous changez de visage.
Oui.
Vous changez même de silhouette, quelquefois.
Oui. Oh ben la silhouette, ça, c'est une vieille histoire. Il y a 2 ans, je voulais maigrir un peu, parce qu'à l'accident de mon fils, j'avais pris énormément de somnifères et de tranquillisants, et j'ai voulu être en forme, quoi. Mais ça, ça date d'il y a 2 ans. Quand t'as changé de visage, je me rends pas compte. C'est pas, j'en suis pas responsable. Il paraît même que je change de visage dans la journée. Alors...
C'est pas facile au cinéma.
Non.
Ça doit poser des problèmes, dites-moi.
Non, mais enfin, suivant les expressions, l'humeur.
Non, vous changez de visage tout de même. Prenons l'exemple de la Baie des Anges, par exemple. Vous êtes venue blonde.
Ah, mais ça, c'est Demi qui m'a demandé, parce qu'il voyait tout à fait cette petite femme, blonde décolorée, les cheveux dans le vent, avec sa petite valise, habillée tout en blanc ou tout en noir. Ça, c'est lui qui a décidé. Et après, alors, je me suis coupée les cheveux parce que j'en avais envie, comme n'importe quelle femme. On a toujours envie de se changer un petit peu.
Si Jeanne Moreau change aisément d'apparence physique, elle n'hésite pas non plus à changer de registre. Et elle passe ainsi volontiers d'actrice à chanteuse. Cette année 1963, elle sort donc aussi un album de 12 chansons, toutes écrites par Cyrus Bassiac. Et pour l'occasion, Lucien Maurice la reçoit sur Europe numéro 1.
Jeanne Moreau, ses 12 chansons sont toutes du même auteur, Bassiac. Pourquoi?
Oui. Bah, parce que moi, je connais personne dans la chanson. Et puis, s'il n'y avait pas eu Bassiac, j'aurais pas fait de ce disque. Je veux dire que ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je connais Bassiac depuis 10 ans. C'est un peintre et il invente des chansons comme ça pour se distraire. Il a des idées, soit en lisant les journaux, un fait divers, ou bien des idées qui lui viennent comme ça, des assemblages de mots. Et il faisait ses chansons, j'en connaissais pas mal, je les fredonnais. Et puis il se trouve qu'il y en a une que j'ai chantée comme ça un jour entre copains. François Truffaut était là. Et comme nous allions tourner, je lui ai dit, il a dit, oh, ben, celle-là, elle me plaît beaucoup, parce qu'il aime beaucoup la chanson François. Et il m'a dit, on va la mettre dans le film, je sais pas où, mais on trouvera bien moyen.
Eh oui, Bassiac est l'auteur du Tourbillon de la vie que Jeanne Moreau interprète. Dans Juliette.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail.
On peut dire que ça a plus que marché, Judy Jim. Elle avait des bagues à chaque doigt.
Oui.
Ça a été, c'était au moment de Let's Twist Again, du petit Gonzalez et d'autres succès de ce genre. Ça a fait un triomphe avec quelqu'un qui n'est pas une chanteuse professionnelle.
Oui.
Jeanne Moreau, donc, c'était pour vous beaucoup plus un exploit d'amateur que de chanter réellement.
Oui,
est-ce que vous
enfin...
avez pris des cours de chant pour
Non,
pas du tout.
Pas du tout, mais c'est assez courant, les exploits d'amateurs en ce moment. Je veux dire que ça n'a plus un sens péjoratif.
Non, mais ce n'est pas péjoratif d'ailleurs. Moi, je pense que le naturel, c'est le principal argument, que ce soit en comédie ou en chant.
Mais vous êtes sûre, mademoiselle Moreau, que des cours de chant ne vous seraient pas utiles?
Donc, moi, je trouve que ça ne sert à rien du tout, les professeurs.
Enseigner la technique de 2 ou 3 leçons, pas plus.
Oui.
Et en tout cas, pas davantage pour ne pas chasser le naturel.
Oui, les leçons, en effet, sont nécessaires dans la mesure où elles vous donnent confiance. Parce que ce qui est terrible toujours, aussi bien au théâtre qu'au cinéma ou en chantant, quoi, c'est la peur. Après, la peur devient le trac. Mais le trac, c'est quelque chose de généreux et de constructif. Tandis que la peur, ça vous coupe tout, alors.
Enfin, j'ai entendu, moi, elle avait des bagues à chaque doigt chantées par tout le monde, même ceux qui n'avaient pas vu le film.
Oui.
On a vendu beaucoup de disques. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a été vendu?
Je crois qu'on a vendu un peu plus de 100 000, 140 000, je crois, mais je ne me rends pas compte de ce
Alors,
que ça
c'est,
fait.
C'est énorme. Je peux vous dire que c'est énorme.
Mais si la chanson a eu un énorme succès, ce n'est pas grâce à elle. Enfin, c'est en tout cas son point de vue.
Est-ce que vous pensez que le nom de Jeanne Moreau suffit ou est-ce qu'il faut la qualité de la chanson?
Oh non, je crois que ça ne sert pas à grand-chose dans ce cas-là. Je crois que c'est vraiment la qualité de la chanson. Parce que peut-être qu'on arrive à vendre, je ne sais pas moi, 100 disques ou...
Vous avez raison.
Et puis après, si ça ne plaît pas, ben ça ne plaît pas, ça ne sert à rien du tout.
Est-ce que vous saviez que Martine Carole avait enregistré 4 chansons?
Non,
vous voyez,
pas.
C'est donc les chansons qui n'ont pas marché.
Oui.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes, ils aiment les femmes.
Merci Jeanne Moreau. J'attends le prochain maintenant avec impatience. Je suis certain que le public va adopter ces 12 chansons.
Bah, s'il les adopte pas les 12, s'il y en a 2 ou 3, c'est déjà pas mal.
En tout cas, ce disque. Et puis ensuite, nous espérons vous retrouver soit dans une comédie musicale ou encore dans le disque. Vous avez une belle carrière à faire si jamais le cinéma vous en laisse les loisirs.
Merci beaucoup, à bientôt.
Le premier album de Jeanne Moreau, écrit et composé par Cyrus Bassiac, remportera le grand prix du disque de l'Académie, Charles Cros.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Jeanne Moreau, avec la mémoire qui flanche, titre issu de son tout premier album. Elle en sortira 6 au total.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1963, nous sommes en pleine guerre froide. Et pour éviter toute escalade, les États-Unis et l'URSS décident de mettre en service un téléphone rouge, c'est-à-dire un système de communication directe entre Washington et Moscou.
Aujourd'hui, l'Union soviétique et les États-Unis ont signé un accord sur la création d'une ligne de communication de télétype directe et permanente entre leurs deux gouvernements. Cette ligne donne la possibilité aux chefs des deux gouvernements d'entrer en liaison directe à n'importe quel instant pour échanger des messages urgents. Le but de l'installation de cette ligne est d'éviter toute occasion de malentendu dans les relations des deux États. Nous reconnaissons que maintenant la tension existe très souvent entre l'URSS et les USA, et nous avons eu plusieurs fois la preuve que des crises politiques peuvent éclater qui entraînent des mesures de caractère militaire des deux côtés.
Quelques jours plus tard, le général de Gaulle annonce que la France se dote aussi de l'arme nucléaire.
Ainsi, les principes et les conditions, les circonstances nous ont amenés, nous ont déterminés à nous doter nous-mêmes d'une force atomique qui nous soit propre. Bien entendu, la France n'exclut pas du tout que soit combinée l'action de cette force-là avec l'action des forces analogues du même genre, de ses alliés. Mais pour nous, l'intégration est une chose qui n'est pas imaginable dans l'espèce.
Partout dans le monde, les manifestations antinucléaires se multiplient. La France campe sur sa position et le commissariat à l'énergie atomique valide sa décision.
Et ceux qui n'ont pas l'arme atomique seront à la merci de ceux qui la possèdent. Ils seront à la merci d'une menace d'invasion. Ils seront à la merci d'un chantage politique gradué comme ceux que nous avons vus avant la guerre de 1939. C'est pourquoi, en préparant l'armement atomique de la France, le commissariat apporte à notre pays et même à l'ensemble de l'Europe libre un élément de sécurité et de tranquillité indispensable.
Début août 1963, un autre traité est signé à Moscou entre les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne.
Les trois puissances s'engageaient à mettre fin à une partie de leurs expériences atomiques. Les États-Unis et l'URSS disposent chacun aujourd'hui d'un potentiel nucléaire suffisant pour détruire plusieurs planètes. Le traité de Moscou ne leur fait obligation ni de détruire ces stocks, ni même d'interrompre leurs expériences souterraines.
En revanche, le traité interdit toutes les expériences menées dans l'atmosphère et dans l'eau. Si la France ne fait pas partie des signataires, c'est parce qu'elle a tout simplement refusé. Ce qui contrarie l'ancien vice-président américain, Richard Nixon.
En tant qu'Américain, je préférerais que la France adhère au traité interdisant les essais nucléaires. Mais je comprends que le président de Gaulle veuille que la France soit à même de développer sa capacité nucléaire de façon à être un membre fort et indépendant de l'Alliance occidentale. Quant à la coopération américaine avec la France dans ce domaine, je crois que les États-Unis devraient donner à la France ce qui est nécessaire au développement de sa force nucléaire, ce qui signifie le partage des connaissances atomiques.
Mais pour le général de Gaulle, la France n'a aucun intérêt à ratifier le traité de Moscou.
Je vous répéterai une fois de plus que si, un jour, les Américains et les Soviétiques désarment, c'est-à-dire s'ils en viennent à la destruction et à l'interdiction des moyens nucléaires, c'est de grand cœur que la France s'abstiendra de s'en procurer.
Ainsi, la position de la France est nette. Il ne peut être question pour elle d'abandonner à une tierce puissance le soin d'assurer complètement sa défense nationale.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson.
Serge Gainsbourg, bien entendu, avec la javanaise, chanson inspirée par Juliette Gréco, que Serge lui a offerte après une soirée tout en mystère et surtout pleine de bulles.
Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
En 1963, grâce à l'essor du tourisme international, la Tour Eiffel franchit pour la première fois la barre des 2 millions de visiteurs. Mais pour admirer la vue, il faut être sacrément téméraire, parce qu'il n'y a aucun filet de protection, aucun grillage qui protège la balustrade. Le vide est là, et ça commence à être un problème.
Vous travaillez ici toute l'année, madame, vous vendez des souvenirs?
Oui, toute l'année, oui.
Vous avez l'impression qu'il est facile d'enjamber le parapet?
Oh oui, c'est facile. D'un moins de deux, celui qui est un peu
Quelle est la
souple.
Hauteur à peu près?
Peut-être 1m60, oui. Quelqu'un qui veut suicider, il n'y a rien qui le retient. La preuve, puisqu'on n'a même pas le temps de les retenir. Hier, le suicide qu'il y a eu, il y avait un monsieur qui était en train de prendre une photo. Il a voulu empêcher la dame de tomber, mais elle était déjà partie. C'est tellement vite fait qu'on n'a pas le temps de... Puis alors, en plus de ça, c'est très dangereux de les retenir, parce qu'il y a déjà eu des manques d'accidents par rapport à ça. Parce que de les retenir, ça vous emporte aussi. Alors, quelqu'un qui n'est pas assez solide, il va en même temps. Alors.
Quelques jours plus tard, au troisième étage... Les gardiens de la tour Eiffel détectent un homme au comportement suspect.
Il dit, tiens, celui-là, c'est drôle de tête. Alors moi, je surveille un petit peu, comme je surveille toujours d'abord.
Malheureusement, l'homme échappe à la vigilance du gardien et il se suicide.
Et le gars, il a monté sur
la rambarde
et la moitié dehors déjà. Quand je l'ai attrapé la veste, je lui dis, monsieur, restez avec moi. Et le gars, il n'a pas insisté, bam. Tu n'as dit pas un mot. Alors je ne peux pas vous dire si vous laissez suicider, oui ou non.
C'est quand même curieux qu'il passe la moitié de son corps au-dessus de la rambarde.
Pour moi, j'avais un petit coup dans le nez.
Il avait déjà vu, vous croyez?
Oh, je crois, de la tête qu'il avait comme ça.
On avait dit que depuis les récents suicides, le troisième étage de la tour Eiffel était fermé aux visiteurs.
Non.
Il a été fermé pendant un moment.
La quatrième plateforme a été fermée, mais pas le troisième étage. Bon, bah, la troisième, c'est une galerie vitrée, là, pas de danger, là.
Mais aujourd'hui, elle était ouverte, puisque celle-là...
Aujourd'hui, elle était ouverte, oui.
Elle a été rouverte depuis.
C'est resté fermé 3-4 jours, en tout, quoi.
Il n'y a toujours pas de grillage, comme ça avait été demandé, pour empêcher les suicides.
Vous savez, vous allez mettre un grillage ici, ils sortiront dans la cage de l'ascenseur.
En cette année 63, la tour Eiffel est endeuillée par plusieurs suicides. Et l'un d'eux marque les esprits. Un samedi d'hiver, Francisco Toledo et sa femme Dolores, des immigrés espagnols, admirent la vue depuis le deuxième étage du monument. Et puis le couple redescend au premier, et soudain la dame tombe dans le vide. Et elle se tue. Un touriste témoin de la scène raconte au reporter d'Europe numéro 1.
Si vraiment c'est un crime, n'est-ce pas, suivant ces témoins, ce témoignage. Et de l'autre côté, il y a un ouvrier qui parle l'espagnol et qui a essayé de parler avec ce gars qui est espagnol, qui ne parle pas un mot de français. Et il disait, non, j'ai essayé de retirer ma femme, nous avons deux enfants, et tout ça. Et le gars était un petit peu énervé, vous comprenez, hein. Et, hein, c'est toujours pareil. Les témoins qui disent qu'ils l'ont vu l'acheter, c'était peut-être le contraire, il la retenait peut-être, vous savez, ça... Ça paraît tellement extraordinaire, vous comprenez. Il était très énervé, il se roulait par terre. Hein, c'est un gars qui a 35 ans, quoi. N'est-ce pas, c'est l'un ou l'autre. Ou il jouait la comédie. Ou il jouait la comédie s'il est fautif. Ou alors vraiment, le gars piquait une prisonnière, quoi.
Le mari, évidemment, est immédiatement placé en garde à vue. Et Europe numéro 1 dégote une interview de l'ancien patron de ce Francisco Toledo.
Toledo est rentré chez moi au mois d'août 61 et je l'ai conservé comme ouvrier environ un an.
Que faisait-il exactement ?
Il était manœuvre à l'usine. Il est entré chez moi accompagné de son frère Antonio. Ils ont travaillé tous les deux environ un an chez moi.
Et à ce moment-là, ils arrivaient directement d'Espagne, je crois.
Ils arrivaient effectivement directement d'Espagne.
Mais s'étaient-ils bien assimilés à leur travail ici ?
C'étaient deux ouvriers consciencieux et travailleurs, mais ne parlant pas le français et assez renfermés l'un et l'autre.
Parlez-moi de Francisco Toledo.
C'était l'aîné des deux frères et il était intelligent, mais malgré tout, il était assez coléreux et à la fin, il s'entendait peu avec les ouvriers français.
Pour quelle raison a-t-il quitté votre entreprise ?
Précisément parce qu'il ne s'entendait pas avec les autres ouvriers.
Cet homme colérique avait-il des raisons d'en vouloir à sa femme ? Pour en savoir plus, le reporter d'Europe numéro 1 tend son micro à une voisine du couple.
Madame, vous êtes la plus proche voisine de monsieur et madame Toledo.
Oui.
Depuis une semaine, y a-t-il eu des incidents ?
Oh non, j'ai rien
à suite de ça ?
Non.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu coucher sa femme ?
Non, moi je peux pas croire.
Était-il d'un tempérament jaloux ?
Ça, il ne l'a jamais fait montrer ici dans l'hôtel, il l'a jamais fait montrer, mais enfin, on ne peut jamais savoir dans le caractère.
Est-ce que cette femme sortait beaucoup ?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'il avait lieu d'être très jaloux de sa femme ?
Oh non ! Mais enfin, moi je pense pas, parce que c'est une femme à sortir de travail, elle rentre tout de suite chez elle, faisait son manger, et puis c'est tout, le dimanche elle restait enfermée toute la journée.
Elle sortait jamais ?
Jamais elle sortait, des fois on était obligé de cogner à sa porte pour lui dire que c'était son pain. Alors, ça c'est, je peux pas croire quand même qu'elle soit morte, ça je peux pas croire. C'était une femme qui était douce, c'était une femme qui avait l'air d'aimer les enfants et elle faisait pas d'histoire, elle était travailleuse.
Après 15 heures d'interrogatoire, Toledo finit par déclarer aux policiers que sa femme le trompait et que c'est elle-même qui le lui a avoué ce jour-là à la Tour Eiffel. Et donc Toledo est inculpé et incarcéré. Lors de son procès, 2 ans plus tard, il martèlera à la barre qu'il n'a pas tué sa femme. Ses avocats soutiendront que Dolores s'est suicidée de honte parce que son mari avait découvert son infidélité. Francisco Toledo sera consacré à la peine minimale de 5 ans pour coups et blessures ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme. Et crois-moi, plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour.
C'était Clo-Clo en 1963 avec Belle, 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 une adaptation de la chanson américaine Girls, Girls, Girls que l'on doit à Vin Buggy.
On de la raconte. Christophe Ondelatte.
En mars 1963, Jacques Brel fête ses 34 ans sur la scène de l'Olympia. Et Europe numéro 1 est présent, évidemment.
On manque toujours de fil. Ah, je crois que ça démarre. Ça démarre ? Tout à l'heure, Jacques fait un signe. Ah, malheureusement, ces fils sont d'une immobilité. Oui, oui, ne vous en faites pas pour les projecteurs. Voilà. Et essayez, Blanc, de vous tenir très près des fils, sinon c'est pas possible. Attention, on se tient prêt. Je crois que l'entrée de Jacques Brel pour cette deuxième partie de la première de l'Olympia ne va pas tarder. Pronucocatrix lui-même s'en va de scène maintenant. Et ça commence.
Le concert, normalement retransmis en direct sur l'antenne, a du mal à démarrer. Souci technique.
Petit affolement en coulisses pour l'instant, c'est pour vous comme pour l'Olympia. Il n'y a pas de micro sur la scène et il n'y a sans doute pas de micro pour Europe. Tout ça va s'arranger, je suis tout près de Bruno, là je ne peux pas les ennuyer. Je crois que... Voilà, tout le monde reprend en cœur. C'est finalement le début d'un succès grâce à cet incident technique et Jacques va trouver un autre micro de secours. Jacques, pour l'instant, je vous tiens au courant, est à l'avant-scène et chante dans le projecteur à 2 mètres devant le micro.
Et puis, en plein milieu de sa première chanson, Bruxelles, le problème de micro est finalement résolu et Brel poursuit comme si de rien n'était.
Sous les lampions de la place Sainte-Justine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'a tes grands-mères, y'a tes ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral.
Ce genre de contretemps n'est pas du tout du genre à gêner Jacques Brel. Au contraire. Ce sont ces accros qui donnent de l'émotion à un instant.
Comment ça s'est passé ?
Ben, on s'en rend pas bien compte. On s'en rend pas bien compte comment ça se passe. Quoi.
Et votre histoire de micro au début
fin, ça a drôlement marché.
En tout cas, oui. Mais au début, ça vous a pas trop gêné, avec cette histoire de micro, là ?
Bon, un petit peu, mais enfin... Bien qu'avec les projecteurs, je ne voyais pas l'autre micro. Surtout
ça. Ah voilà.
Je ne le voyais pas. Ouais,
évidemment.
Non, pas trop.
Pas trop, non. En fait, c'est comme ça, si après on fait la bascule, qu'on arrive à faire un succès, si on arrive sans micro à chanter au départ, non hein,
oui,
ça renverse les situations.
C'est vrai.
Bon, Jacques, vous allez jusqu'à votre loge ?
Oui.
Accueillir les amis ?
Oui, oui. Puis m'éponger aussi.
Vous épongez. On peut vous retrouver tout à l'heure ?
Oui, oui, d'accord. Hein, dans 5 minutes.
Ok, à tout à l'heure, Jacques.
Henri Salvador, qui est présent dans la salle, reconnaît après coup avoir été bluffé par le sang-froid de l'interprète.
J'ai vu Jacques et je peux te dire que... Quand Jacques arrive sur scène, on sait pas, c'est un monument de bonté. On est bouleversé et il nous a mis KO au premier rang, on me fait dire.
Et Salvador n'est pas le seul à être impressionné. Claude Nougaro était là également et il a du mal à cacher son admiration.
Est-ce que ça donne des complexes,
Brel,
Jacques Brel?
Ben Brel, oui, c'est...
Non
c'est un boxeur, quoi. Il boxe les cœurs.
Mais tu boxes un peu aussi, toi?
Oui, mais j'ai pas le style encore qu'il a, mais je l'aurai un jour.
Tu l'estimes poids moyen, poids...
Poids moyen,
et toi?
Le poids moyen, ça n'a pas de relation avec le poids réel, objectif.
Ah bon.
Je crois que je peux être un poids moyen aussi.
Bon. Pour l'instant, tu es quoi, welter?
C'est ça, oui, léger, quoi. Welter, oui.
L'Olympia, quand?
Je sais pas, peut-être la saison prochaine, si...
Ça a été retardé.
Ben oui.
J'aurais demandé à Jacques Brel maintenant s'il connaît cette chanson qui s'appelle « I belong to your heart ».
Je voudrais dire un truc quand même, puisque Nougaro est là. C'est que, de toute façon, j'ai une passion pour ce mec. De toute façon, il faut bien le dire.
Ben, disons-le.
Et que, effectivement, on est deux boxeurs, certainement. Et que, moi, étant boxeur, je me dis que l'avenir est au boxeur, bien sûr. Il y a une différence essentielle entre Nougaro et moi, tout de même. C'est que Nougaro, sa grande force de frappe, pour employer des mots, c'est le gauche, parce que c'est le cœur. Tandis que moi, c'est la droite, qui est une arme plus insensible, si on veut. C'est ça la différence qu'il y a entre Nougaro et moi. Ceci dit, on est deux boxeurs.
Puisque c'est la droite.
La droite, c'est ce qui ne veut pas partir du cœur.
Madeleine, ça ne part pas du cœur ?
Oh non, non, Madeleine. Madeleine, c'est l'espérance qu'on attend, comme si ça arrivait, l'espérance.
Et tant
faut
qu'on
juste aller la chercher.
Et tant qu'on a que l'amour, ça part de la droite ?
Non, Jacques est trop modeste.
Ça part maladroitement.
En cette année 1963, tous les dimanches, à 21h30, Jacques Brel anime aussi une émission musicale sur les ondes d'Europe numéro 1. Rendez-vous très prisé, sponsorisé par une marque de shampoing.
Ce soir, le Pétrolane pour les cheveux vous invite au rendez-vous de Jacques Brel avec Madame la Musique. Vous aimez sortir nu-tête, et vous avez raison. En cette saison, c'est bien agréable. Mais n'oubliez pas que vos cheveux sont en contact permanent avec le vent, les poussières, et bien souvent la pluie. Les giboulées ne sont pas terminées. Il vous faut donc garantir vos cheveux contre l'action néfaste de ces multiples éléments.
Brel anime ainsi une émission sur Maurice Ravel, une autre sur Prokofiev, et une autre encore sur Beethoven.
Ami, bonsoir. Je suis certain que si je vous dis Ludwig, vous me répondrez d'une seule voix, Van Beethoven. Beethoven, le géant, le généreux, mais aussi le douloureux, le solitaire, le mystérieux Beethoven. Aux vitrines des disquaires du monde entier, dans les chambres des lycéens et même sur les polos des étudiants américains, son visage de lion est le plus populaire de tous les musiciens. Et cet hiver, l'intégrale de ses 9 symphonies, dirigée par Karajan, a été édité en souscription dans 12 pays simultanément, rien qu'en France. Et en 3 mois, il en a été vendu 46 tonnes, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Avec Beethoven, le révolutionnaire, le musicien prend la place qui lui revient dans la société.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1963.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque je me lâche. Mon cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère. Apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
C'était Jacques Brel avec Mathilde, chanson créée sur scène en 1963 et composée par Gérard Joannest. Et ben voilà, 63, c'est terminé. Merci, merci, comme chaque semaine, à mon équipe, Guillaume Vassot, François Desmoulins, Julien Pichenet, Valérie Inizan. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 1963. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.